Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Internet. Aujourd'hui, j'arrive avec une vidéo un petit peu plus relaxe parce que la vidéo qui suit, et ben, en fait, toutes les vidéos que j'ai faites récemment est assez difficile pour le moral. Fait que j'ai envie d'une vidéo... tout le monde me demande des vidéos paranormales, mais honnêtement, je trouve comme rien qui me donne envie d'en parler, là. Je trouve rien qui m'impressionne, là, pour faire une vidéo. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo de glitches in the matrix, genre... Des vidéos de top 5, de preuves qu'on vit dans une simulation. C'est un petit peu paranormal. Tu sais, je parle de monde parallèle, de voyage dans le temps. Moi, je trouve ça paranormal, mais ça l'est, en fait. C'est plus relax, puis ça va être une vidéo assez longue parce que les histoires que j'ai trouvées sont assez longues. Fait que voilà, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Écoutez le podcast Over and Out. Ça a été quand même compliqué de classer mes histoires de la plus moins nice à la plus mystérieuse. Je crois que les cinq sont mystérieuses, c'est pourquoi je les ai choisies. Mais définitivement, la numéro 1, je pense que c'est la plus intrigante. Donc, cette histoire prend place à Lima, au Pérou. Et elle raconte l'histoire d'un possible voyage dans une autre dimension. Donc, ce que je vais vous raconter est en fait ce que raconte le docteur Raúl Ríos Centeno. Donc, il y a une patiente qui est allée le voir, c'est une femme dans la trentaine, et elle était gravement atteinte d'hémiplégie. Et si je ne me trompe pas, l'hémiplégie, c'est une maladie qui va te paralyser juste un côté de ton corps, donc soit le côté droit, soit le côté gauche. Donc, la patiente va le voir avec... une nouvelle maladie, justement, elle est complètement paralysée d'un côté de son corps. Quand le docteur lui pose des questions sur sa maladie, est-ce que c'est nouveau? Qu'est-ce qui se passe? Normalement, les gens qui sont atteints de cette maladie, bon, au Pérou, ils ont une petite carte pour identifier formellement qu'ils sont atteints de cette maladie. La patiente était comme incapable de le prouver. Le docteur lui a donc fait un CAT scan et il n'a pas été capable de voir des lésions ni des vaisseaux sanguins qui auraient pu subir un traumatisme. Normalement, des gens qui sont atteints de cette maladie, bien, on peut le voir sur un CAT scan, mais cette femme-là n'avait rien qui montrait pourquoi elle était paralysée d'un côté de son corps. Donc c'était vraiment mystérieux tout ça, genre de maladie à la Dr. House. Là. Mais là, la patiente a commencé à raconter une histoire fascinante pour expliquer comment ça a commencé ces symptômes-là. Elle était sur un terrain de camping près de la forêt des pierres anciennes Marcahuisi avec des amis. Donc Marcahuisi, c'est dans les Andes, c'est à 60 km de Lima et c'est vraiment beau parce qu'il y a comme une grosse pierre et tout dépendamment de l'angle que tu vas regarder, c'est soit un visage, soit un animal, fait que c'est super mystérieux. C'est un endroit assez spirituel. Je pense qu'il y a pas mal de retraites spirituelles qui s'organisent là parce qu'il y a vraiment une grosse, une belle énergie qui s'en dégage. Donc la femme est allée camper là avec des amis et durant la nuit, elle a décidé d'aller explorer un peu plus loin avec quelques-unes de ses amies. Et là, en marchant, les femmes ont comme été attirées par une musique au loin qu'elles ont suivie, tu sais, au son de l'oreille. Elles ont suivi la musique et là, elles ont aperçu comme une petite cabane en pierre très, très ancienne qui était faiblement éclairée. Se sont approchées un petit peu plus et à l'intérieur, elles ont vu des gens en train de danser. Mais ce qui était étrange, c'est que les gens étaient habillés comme en vêtements qui datait un peu du 17e siècle. C'était des vieux vêtements, ça avait pas de l'air récent. On dirait comme une secte ou bon. C'était super étrange. La femme, plus elle s'approchait, plus elle s'est mise à sentir une sensation de froid. Très très froid, mais c'était inexpliqué. Elle trouvait ça bizarre, mais elle a dit bon, va continuer. T'sais, tu t'as froid tout d'un coup, tu vas pas cesser. Non, non, elle a continué à marcher vers la cabane. Elle a ouvert la porte, elle a juste regardé. Là. Elle a mis sa tête comme ça, elle a juste regardé. Elle voulait entrer, mais l'une de ses amies l'en a empêchée. Elle l'a pris par le bras, elle a dit non, non, on va pas entrer dans une cabane avec des gens qui dansent. Rendue au campement, les femmes se sont couchées et c'est là que la patiente raconte que la moitié de son corps était paralysée. C'est son amie qui a dû la border, qui a dû la briller, tout ça parce que la patiente, dont on ignore le nom, la femme, était pas capable de bouger, ben juste la moitié de son corps. Et étrangement, depuis cette nuit-là, la femme est restée paralysée. En fait, cet endroit, c'est un endroit super mystique. C'est pas la première fois qu'il y a des gens qui racontent avoir vécu des expériences étranges à cet endroit. Plusieurs Péruviens disent avoir vécu des expériences interdimensionnelles à Marcahuisi, mais il y a rien qui a été prouvé. C'est encore là, c'est juste des oui-dire. C'est j'ai entendu un ami qui a dit ça, j'ai un ami qui a vécu ça, mais on n'a aucune preuve physique. La seule preuve physique qu'on a, c'est cette patiente. Fait qu'on pense qu'à cet endroit, il y a comme un plusieurs portes cachées dont on ignore, mais c'est pas des portes comme ça, c'est juste des espaces, là, des champs magnétiques. Et si tu le traverses par erreur, parce qu'on sait pas qu'il existe, si tu le traverses par erreur, ben tu vas te ramasser dans une autre dimension. Encore là, ça me fait vraiment penser à les livres de Diane Gabaldon, c'est ça? Le chardon et le tartan et tout ça. C'est un peu dans ce style-là, je crois, là. C'est comme, Claire, tu sais, quand elle traverse, puis elle se ramasse en Écosse ancienne. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. Fait que peut-être que cette femme-là, justement, elle a traversé un portal et c'est là qu'elle a vu des gens habillés en vêtements de l'ancien temps qui dansaient. Elle s'est ramassée là par erreur et si elle était entrée dans la maison, là, elle a juste mis sa tête. Elle est devenue paralysée d'un côté de son corps. Mais qu'est-ce qui serait arrivé si elle était entrée complètement dans la maison? Je pense que ça aurait été la première femme à traverser dans une autre dimension. Mais encore là, c'est possible qu'elle ne soit jamais revenue. Donc voilà pour cette histoire. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est vrai ou un simple canular? Donc cette histoire a été publiée sur Reddit il y a environ 9 mois, mais elle s'est passée il y a quelques années en Pennsylvanie. L'auteur se nomme Clueless Bird, mais je vais pas l'appeler Clueless Bird tout le long. Pour le bien de la compréhension de l'histoire, on va l'appeler Mathieu. Donc Mathieu revient d'une soirée entre amis et il y a une fille qui habite pas loin de chez lui qui vient juste de rencontrer cette soirée-là, à sa soirée entre amis. Donc il lui offre un transport, un lift. Et il dit « Je vais aller te porter chez toi, c'est pas loin de chez moi. » Pour aller porter la fille, il doit passer par une route principale. C'est une route d'une voie qu'il connaît par cœur. Il a dû l'emprunter une centaine de fois. Il a vécu toute sa vie dans cette ville-là. Donc Mathieu connaît très bien cette route. Donc il décrit un peu la route. Là, je vais essayer de vous le décrire comme j'ai pu. Mais il décrit un peu la route, comment elle est. C'est à travers... c'est une route un peu éloignée. C'est pas une autoroute principale. Donc à un moment, la route contourne une montagne à droite, et ensuite il y a une courbe à gauche, c'est une courbe vraiment tranchante. Là. Ensuite, il tourne à droite à nouveau, et il y a deux grosses bûches de bois sur le bord de la route, et sont placées en forme de X. Fait que c'est comme un point de repère. Ça fait longtemps qu'ils sont là, les bûches de bois, ils bougent pas, là. Fait que c'est assez spécial. Comme je vous dis, Mathieu connaît très très bien la route, il est super habitué, là. Il pense même plus quand il conduit sur cette route-là, c'est comme un automatisme. Donc Mathieu parle avec la fille, il contourne la montagne, tourne à droite, prend la courbe tranchante à gauche. Mais là, après, il est supposé tourner à droite, mais là, la courbe est soudainement à gauche. Là, Mathieu, tout de suite, il se raidit parce qu'il sait qu'il devrait y avoir une courbe à droite et non une courbe à gauche. Tout de suite, là, il devient genre en mode... Là, il a écrit ça sur Reddit, fight or flight, là, tu sais, en mode genre défense, survie. Mathieu et la fille se sont immédiatement tus et se sont regardés les deux avec confusion parce qu'ils savaient que c'était pas normal, là, c'est pas du tout. il savait qu'il y avait de quoi qui marchait pas. Il voyait que la route tournait à gauche, puis ensuite elle s'enfonçait dans la forêt, mais à l'endroit où il était supposé tourner à droite, mais il y avait rien, c'était comme le bord de la montagne, il y avait des arbres, t'sais, il y avait complètement rien. Là, c'est pas comme si la route avait changé, qu'il y avait un détour, pas du tout, c'est comme si la route n'avait jamais existé. Plus Mathieu s'approchait du tournant à gauche, du nouveau tournant à gauche, plus il sentait que quelque chose allait lui arriver. Il sentait pas du tout, il dit « c'est pas normal, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? » C'est là qu'il a pris la décision assez insensée, spontanée, de tourner à droite alors qu'il n'y a rien à droite. Et là, en tournant à droite, il y a comme un shift qui s'est fait, il y a de quoi qui s'est passé, et là, tout est redevenu normal. Mathieu a regardé dans son rétroviseur et le tournant à gauche avait disparu. C'est vraiment bizarre. Mathieu était tellement troublé qu'il tremblait. Il a dû se ranger sur le bord de la route pour reprendre ses esprits parce que clairement, il y a de quoi qui s'était passé. Mathieu a fini par aller porter la fille chez elle, il est rentré chez lui et tout s'est bien passé. Tout s'est arrangé finalement, là. Après ça, il a repris cette même route une couple de fois. Et tout était normal, il n'y a rien d'étrange qui se passait, c'était pas mal pareil. Mais une fois, il a décidé de s'arrêter sur le bord de la route et d'aller explorer où le fameux tournant à gauche illusoire était supposé. Il dit « Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a à cet endroit, pourquoi les deux on a vu qu'il y avait un tournant à gauche. » Et c'est là qu'il a découvert qu'à cet endroit, il y avait une falaise extrêmement à pic de 80 mètres. Il y a plein de roches et tout, puis ça mène à un ravin. Et si tu tombes là, tu meurs, c'est assuré. Donc si Mathieu avait suivi la route fantôme, il serait mort, là, c'est sûr, sûr, sûr. Fait qu'il a vraiment bien fait de suivre son instinct. Puis là, vous allez me dire, ben là, c'est peut-être juste une hallucination, et peut-être qu'il avait trop bu. Mais non, parce que la fille aussi, elle a vu la même chose que lui. C'est tellement étrange, cette histoire-là, moi, je comprends pas. Bon, ça peut être fake encore là, mais c'est pas le genre d'histoire que t'inventes. C'est pas assez exagéré, c'est comme trop léger comme histoire pour que ça soit fake. En tout cas, je sais pas, ça me fait penser que genre la vie tient vraiment à un cheveu. Là, je veux pas faire ma philosophique, mais tu sais, mettons si on prend la simulation theory, que genre, mettons là, qu'on est dans un jeu de Sims, pis qu'un être supérieur qui nous contrôle. Mettons, c'est genre un enfant là, qui contrôle la vie de Mathieu. Je sais que c'est pas ça, là. Mais admettons qu'il a juste décidé de « Ah, oh, je vais changer la route de bord. » Puis là, « Ah, oh, ben finalement, non. » Tu sais, ça se peut qu'il y ait eu un bug, justement, un bug dans la matrice. Genre, un glitch in the matrix, que la route a juste changé de bord, tu sais. Oups, elle a changé de bord comme ça. Ou peut-être que Mathieu était supposé mourir cette journée-là, puis c'était une façon de le faire mourir cette journée-là, mais il a comme déjoué son destin. En tout cas, ça fait réfléchir, il y a plein de théories à tout ça. Mais on va continuer parce que c'est arrivé à quelqu'un d'autre sur Reddit qui a dit « Hein, la même chose m'est arrivée. » Deux jours après la publication de ce post sur Reddit, il y a quelqu'un qui a dit « Ok, la même chose m'est arrivée. » Et il a décidé de raconter sa propre expérience. L'histoire, elle a quand même de quoi de similaire, mais il y a des petits trucs de différents. Ça a eu lieu à Washington. C'est arrivé à une fille qu'on va appeler Cindy, mais son nom sur Reddit, c'est The First Adorkable. By the way, tous les liens, toutes les histoires dont je parle sont toutes dans la barre d'infos, là. Les sources sont là. Si vous voulez aller lire les textes en entier, ils sont là, mais sont en anglais. Donc, l'histoire prend place dans la petite ville de Ravensdale à Washington. Cindy, chaque jour pour aller au travail, elle prenait la même route. C'est quand même une autoroute isolée, tranquille, mais ça reste une route principale. Elle est quand même sinueuse un petit peu, mais pas trop. Cindy dit qu'elle la connaît par cœur, cette route-là. T'sais, elle la prend chaque jour pour aller au travail. Fait que c'est comme rendu genre muscle memory, c'est automatique de prendre cette route-là. Elle pense même plus pendant qu'elle conduit. Donc, comme à tous les matins, Cindy conduisait pour aller au travail. Il faisait clair dehors. C'était vraiment une belle journée. Elle avait son café, elle avait de la bonne musique dans l'auto. Fait qu'elle n'était pas du tout fatiguée, elle n'était pas en état de somnolence. C'est pour vous mettre en contexte, là. Puis il faisait clair, fait que elle voyait très très bien. Donc elle conduisait, mais là à un moment, Cindy s'est mise à sentir quelque chose de vraiment bizarre. Fait que là elle a dit « Ok, je vais essayer de vous le décrire comme je peux, là, mais c'était comme un sentiment qu'elle n'avait jamais senti auparavant. Son estomac s'est retourné. C'est comme serré. Elle a eu la chair de poule partout sur son corps. Elle s'est mise à avoir froid vraiment soudainement. Et ça me fait penser à la femme au Pérou. Là. Elle aussi, elle décrivait un sentiment de froid très soudain. Donc Cindy s'est mise à serrer le volant très 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 fort, là, tellement que ses jointures étaient blanches. Et là, elle s'est dit, ok, il y avait une courbe à droite que ça fait longtemps que j'aurais dû prendre. Et là, elle l'avait pas vue. Devant elle et derrière elle, il y avait une longue... C'était juste la longue route droite. Fait qu'il y avait une courbe qu'elle était supposée prendre. La route faisait une courbe. Et là, la route n'avait pas fait cette courbe en soi. Elle a réalisé ça. Elle a vu que la courbe qu'elle était supposée avoir pris depuis quelque temps, elle était à 400 mètres plus loin. Ce qui est vraiment bizarre. Elle sait qu'elle était supposée l'avoir pris. En tout cas, c'est vraiment bizarre. Fait que là, elle voit la courbe 400 mètres plus loin. Et c'est là que le glitch est quand même vraiment fréquent. Cindy s'est mise à entendre une voix dans sa tête, mais c'était pas sa voix à elle. Elle dit, là, c'était comme la voix d'un imposteur. Et ça le dit exactement, mot pour mot, « Je devrais continuer à conduire, ça va bien aller. » Cindy, elle a eu vraiment peur parce que c'était pas sa voix à elle. C'est comme si c'était son subconscient qui parlait au « je », mais c'était pas elle qui pensait ça du tout. C'est comme si quelqu'un la forçait à penser ça pour contrôler ses actions. Fait que là, sans penser, juste genre encore là, instinct de survie, Cindy, elle a genre donné un coup de volant comme ça. Et là, le glitch a comme... En tout cas, il y a eu un switch. Et une chance qu'elle a donné un coup de volant parce que si elle avait pas fait ça, elle a vu que devant elle, il y avait comme plein de sapins, là, plein de sapins. Elle aurait foncé tout droit dans la forêt et clairement, elle aurait fait un gros accident de voiture. Fait qu'il y avait pas du tout une courbe devant elle, c'était une forêt. C'est vraiment bizarre. Elle roulait à 100 km/h, fait que clairement, là, ça aurait été quand même un gros accident. Fait que dans les deux situations, c'est comme si on voulait leur mort. Dans ce cas-ci, c'est encore plus fréquent parce qu'on forçait comme à Cindy à penser « continue à conduire, ça va bien aller, continue à conduire ». On a changé ce qu'elle voyait, on a changé la simulation là, pour qu'elle fasse un accident. On dirait que c'est à peu près la même chose qui est arrivée à Mathieu. Je trouve que c'est une histoire super intéressante parce que ça peut être aussi paranormal ou... moi je pense que c'est vraiment comme un glitch dans la Matrix où il y a quelque chose qui veut causer leur mort, en tout cas. Fait que dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vécu une expérience similaire? C'est possible, moi j'ai jamais vécu ça. Mais tout de suite, ça a vraiment attiré mon attention, ces deux histoires-là. Donc cette histoire, l'auteur en parle comme d'un glitch dans la Matrix et ça peut très rapidement amener à quelque chose de plus dark, puis même quelque chose de true crime. J'ai voulu enquêter davantage, mais l'auteur ne donne pas beaucoup d'informations parce qu'il veut probablement protéger l'identité des victimes ou parce que c'est fake, là, ça se pourrait très bien, mais c'est très certainement intriguant. Donc l'auteur se nomme Noah et il a publié ce texte il y a 4 mois. Mais l'histoire s'est passée quand même il y a quelques années. Donc Noah avait une pen pal, en anglais pen pal, mais en français je pense qu'on appellerait ça une correspondante, une fille à qui il écrivait des lettres, il s'envoyait des lettres par la poste. Ils s'étaient rencontrés en ligne et la fille venait d'un autre état, mais c'était elle aussi une Américaine. Ils s'écrivaient vraiment souvent, la fille lui avait raconté des choses sur son enfance, son adolescence, son école secondaire, elle lui faisait part de ses problèmes. Et ce qui est cool avec un correspondant, c'est que vous partagez tellement de choses qu'il devient très vite un confident. Et c'est vraiment ça pour Noah et la fille, ils sont devenus des amis très très proches, ils se parlaient de leur famille, de leurs proches, de leur maison, de leur ville, vraiment ils savaient tout l'un sur l'autre. Donc un jour, la fille, elle a dit à Noah qu'elle partait en vacances, donc elle serait pas joignable pendant quelques temps. Elle lui a quand même laissé son compte Instagram. Elle dit « S'il y a quoi que ce soit, c'est un problème, si tu veux vraiment, vraiment me parler, écris-moi sur Instagram, on va pouvoir se parler, mais je pourrais pas répondre à tes lettres immédiatement. » Noah avait déjà essayé de la chercher sur Instagram avant, mais elle a un nom super commun. Fait que, mettons, Catherine Tremblay, là, au Québec, c'est quand même commun. Fait qu'il avait jamais réussi à la trouver. Fait qu'il a juste abandonné. Quand il lui a donné son compte Instagram, il était quand même content. Mais il a dit « Ah, oh, je la rajouterai pas, j'aime ça notre relation juste de lettre par la poste. Noah pensait pas vraiment écrire à sa correspondante pendant ses vacances, mais là, il a reçu une super de bonne nouvelle et la seule personne à qui il voulait partager sa nouvelle, c'était la fille. Donc, il a dit « Ah, je vais lui écrire sur Instagram, je vais l'ajouter, là, je peux pas attendre qu'elle revienne. » Il l'a rajouté sur Instagram, mais il a constaté qu'elle avait pas l'air très active sur Instagram. Par exemple, elle n'avait pas de bio, elle n'avait pas de photo de profil, elle avait juste une photo sur son compte. Fait que c'était quand même étrange. Noah l'a reconnu parce qu'il s'était quand même envoyé des photos d'eux. Fait que, tu sais, la seule photo qu'elle avait, c'était une photo d'elle, fait qu'il était sûr que c'était elle. La photo datait de 2016 et avait vraiment beaucoup de commentaires, ce qui est plutôt étrange parce que il y avait pas énormément de gens qui la suivaient sur Instagram, mais il y avait plusieurs centaines de commentaires sur la photo. Et là, Noah s'est mise à lire les commentaires. Il provenait de membres de sa famille et de ses amis qui lui disaient à quel point elle leur manquait. Beaucoup de messages de condoléances. Et c'est là que Noah a appris que la fille était décédée. Ça devait être une mauvaise joke. Voyons, ça se peut pas. Noah a commencé à faire des recherches et c'est là qu'il a appris que la jeune fille avait été tuée en 2017, l'année où il avait commencé à s'écrire. Mais malgré tout ça, Noah était comme toujours pas convaincu qu'elle était réellement décédée. Fait qu'il a décidé de continuer à lui envoyer des lettres et de
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Faire comme si rien n'était, comme s'il n'y avait rien appris. Et, étrangement, elle continuait à lui répondre. Il lui posait des questions spécifiques sur 2017. Il lui demandait si ça avait été une bonne année pour elle ou non. Elle lui répondit que s'était passé beaucoup de choses en 2017, qu'elle était sortie avec un gars super creepy pendant quelques temps, mais c'est tout. Avec le temps, avec les années, bon, évidemment, des relations comme ça, ça peut pas durer toute la vie. On n'est pas comme dans les films. Fait qu'ils ont juste comme arrêté de s'écrire et ont pris leur distance. Ben, ils se sont jamais réécrits, mais ça a quand même toujours troublé Noah. Et là, il a comme partagé cette histoire sur Reddit. Donc, cette histoire est en effet assez troublante. Dans les commentaires, plusieurs ont proposé l'hypothèse encore plus dérangeante que peut-être que depuis le début, Noah parle en fait avec son assassin. Ah, ça n'a pas de sens, c'est fou. Ça m'a donné le frisson de lire ça. Les Redditors, les gens sur Reddit, lui ont conseillé d'aller directement à la police parce que la personne à qui il écrivait des lettres avait ben, le nom complet de Noah, toutes ses informations personnelles, sa photo. Il y avait même son adresse, il envoyait des lettres. Donc ça pouvait potentiellement être dangereux pour lui. Et là, ça l'a fait un peu paniquer Noah. Il est tout de suite allé faire des recherches sur l'affaire du meurtre de sa correspondante. Il a vu que l'ex-petite amie, ben en fait le petit ami de la fille et la belle-mère du petit ami ont été arrêtés. En fait, pas la mère de la fille, mais la belle-mère du petit ami. En fait, le petit ami avait un père puis la blonde de son père, là. Ils ont été arrêtés pour le meurtre de la fille. Ils ont été envoyés en prison, la belle-mère a été relâchée et le petit ami a été condamné à plusieurs années de prison. Fait que ça peut vraiment pas être lui, là. En tout cas, Noah en doute fortement. Évidemment, le nom du petit ami n'est pas public parce qu'il était mineur à l'époque. Moi, j'ai pensé, ben là, ça peut être la belle-mère, mais bon. Il y a une autre hypothèse un petit peu plus logique. Ça se peut que ça soit quelqu'un de proche de la fille. Une amie, une sœur, un parent même, qui vit un deuil, ben en fait, il est pas capable de vivre son deuil et qui va comme usurper l'identité de la fille et qui se faisait passer pour elle tout ce temps-là. C'est possible, je pense que en fait c'est l'explication la plus logique dans cette histoire-là. On a toujours l'hypothèse paranormale. Peut-être que cette fille-là, en fait, elle est capable de communiquer à travers des lettres. Et c'était une façon pour elle de communiquer avec des gens de la Terre sans qu'on lui pose des questions sur son meurtre. Puis... Non, je sais pas, là. Mais en tout cas, c'est une hypothèse. Paranormal ou pas, moi, je vois pas vraiment de glitch dans la Matrix. Ou peut-être que dans un monde parallèle, la fille n'est pas morte. Fait qu'elle continue d'écrire des lettres, puis elle, tout va bien. Mais dans ce monde-ci, elle est décédée. Fait que, puis leurs deux mondes se sont comme switchés, ça se peut. Et c'est peut-être de cette manière-là qu'ils le voyaient. Mais peu importe, j'ai décidé de l'inclure ici parce que c'est trop creepy. Puis je savais que vous alliez aimer cette histoire. C'est vraiment dommage qu'on ait pas plus d'informations. J'aurais aimé ça savoir c'est qui la fille, c'est quoi l'histoire de meurtre. Mais je comprends qu'on veut pas divulguer cette information. Donc cette histoire, je suis ravie de l'inclure dans ce top 5 parce que c'est une disparition, mais c'est vraiment, vraiment mystérieux, là. C'est genre celle de John Titor... Non, c'était-tu John Titor? Celle de, tu sais, Donald Trump, puis son fils Baron Trump, puis faire de voyage dans le temps, puis le livre. En tout cas, j'avais fait une vidéo là-dessus. Et c'est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Moi, j'avais tellement aimé ce thread-là, j'en avais fait une vidéo. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc, je vous mets en contexte. On a William Cantello, qui est un inventeur anglais du 19e siècle. En gros, c'est lui qui a inventé les mitrailleuses. Là, je sais que mitrailleuse, ça sonne pas bien. Je l'ai cherché, c'est pas mitraillette, c'est mitrailleuse. J'ai cherché, là, sur Google pis tout. En tout cas, fait que c'est mitrailleuse. Mais sûrement que les deux existent, là, mais on dit souvent mitraillette, mais en tout cas, lui, il a inventé les mitrailleuses. Il est connu pour ça, puis il est vraiment legit, il y a une page Wikipédia, c'est lui qui a inventé les mitrailleuses. Bien sûr, à l'époque, il appelait pas ça des mitrailleuses, c'était pas le nom officiel, mais lui, il fabriquait des fusils, puis c'est un inventeur, c'est un ingénieur, et là, au 19e siècle, lui, il inventait des fusils super, super rapides, un modèle ultra rapide, puis c'était vraiment du jamais vu au 19e siècle. Et finalement, après plusieurs heures de travail, un jour, il a annoncé à ses collègues et à ses fils que son invention était maintenant à point. Et c'est pas mal la mitrailleuse, ou bien l'ancêtre de la mitrailleuse, mitraillette, comme on la connaît aujourd'hui. Et là, William Cantello et ses fils, c'est là qu'ils ont décidé de la vendre. Ils partaient chaque jour, ils allaient rencontrer des grosses compagnies pour vendre l'arme. Mais là, un beau matin, en 1880, William Cantello est parti et il n'est jamais revenu à la maison. Il a disparu. Donc on va se transporter dans le temps, 30 ans plus tard, soit en novembre 1916. Tout le monde utilise la mitrailleuse qui tue des milliers de personnes, soit lors de la Première Guerre mondiale en Europe. L'invention de Cantello a clairement été révolutionnaire, c'est une grosse invention, mais... Étrangement, c'est pas lui qui est reconnu pour avoir inventé la mitrailleuse. Pas du tout. C'est un Américain enterré à Londres qui est nommé Sir Hiram Maxim. Quoi? Mais c'est pas rien, là. T'sais, je vous dis pas ça comme ça. La mitrailleuse qui s'appelle The Fire Gun porte même son nom de Maxim Gun. En fait, le Maxim Gun est nommé en l'honneur de cet homme-là, Sir Hiram Maxim, parce que c'est lui l'inventeur. Mais qu'en est-il de William Cantello? Ça, c'est en anglais, mais en français, ça s'appelle la mitrailleuse Maxim, là. Fait que c'est legit encore, là, tout ce que je vous dis, là. Donc, ce gars-là, Maxim, c'est l'inventeur de la mitrailleuse. Mais là, ça devient encore plus dérangeant quand tu mets la photo de Maxim et de Cantello côte à côte. Ils ont une étrange ressemblance, vous trouvez pas? On regarde le style, les rides, les yeux. C'est vraiment ressemblant, il y a juste le nez qui peut être différent. Ça peut dépendre de l'éclairage, ça peut dépendre de la photo. Fait qu'ils sont très 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 semblables. Et même quand les fils de Cantello ont vu la photo de Maxim dans le journal, ils ont cru que c'était leur père. Ils ont vraiment cru que c'était leur père. Pour revenir en 1880, quand Cantello a disparu, sa famille avait engagé un détective privé qui avait réussi à suivre sa trace jusqu'en Amérique. Donc, on a su qu'il est allé en Amérique, mais rendu en Amérique, on n'a pas été capable de le trouver. Aussi, apparemment, qu'une large somme d'argent a été retirée de son compte de banque, mais malheureusement, on n'a pas pu savoir de quel endroit l'argent a été retiré. Ça fait quand même longtemps, là. On n'avait pas toute la technologie qu'on a aujourd'hui. Et puis, c'est quand même bizarre, parce que pense à ça. Cantelo, c'est un Anglais qui est disparu, puis on pense qu'il est allé en Amérique. Puis Maxime, c'est un Américain qui a terminé ses jours en Angleterre. Là, c'est comme un switch qui s'est passé. Un autre truc est aussi super étrange. Maxime a publié une autobiographie et dans son autobiographie, il mentionne que en Amérique, il y a un homme qui essaie d'usurper son identité, de voler son identité. Fait que genre, c'est qui cet homme-là? Genre, c'est tellement bizarre. Donc, croyez-vous que l'homme qui essaie de voler son identité, c'est Cantelo? Donc, est-ce qu'on parle de glitch dans la Matrix? Je pense qu'on parlerait plus de voyage dans le temps. Est-ce que c'est possible que Cantelo ait voyagé dans le temps, dans le futur? Oui. Ben là, si on assume un monde où le voyage dans le temps existe, oui. Est-ce que c'est possible aussi qu'il se soit téléporté en Amérique? Tu sais, si c'est un inventeur, il aurait pu inventer une machine. Là, il y en a qui disent que quand il passait près de son usine, il entendait des bruits étranges. Bon, mais c'est quand même une drôle de coïncidence, mais ça se peut aussi qu'il ait juste disparu parce qu'il a inventé une machine quand même révolutionnaire, puis il y en a peut-être qui ont voulu prendre son brevet ou quoi que ce soit. Mais voilà pour cette histoire, et on passe à la numéro 1. Ce texte est super récent et comme l'histoire de voyage dans le temps, ben moi c'est mes préférés, celle-ci c'est ma préférée et c'est troublant. C'est un post qui a été publié sur Reddit il y a 4 mois par l'usager Throwaway Strange Date qui a quand même un lien avec l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais encore une fois, pour le bien de la compréhension de l'histoire, on va appeler l'homme Mike. Donc Mike a 30 ans aujourd'hui au moment qu'il écrit le post, mais l'histoire s'est passée quand il était au début de la vingtaine, soit en 2011. Donc Mike prenait des cours de soir de japonais à l'université locale, donc c'était une fois par semaine et les cours terminaient vers 21h environ et après ses cours il devait prendre le train pour rentrer chez lui. L'événement s'est passé un petit peu aux alentours de la période des fêtes avant Noël, fait que Mike attendait à la station de train. Et il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui faisait leur dernière course de Noël. Et Mike a manqué son train, donc il doit attendre une heure pour le prochain train. Et là, il y a un homme qui l'approche. L'homme, c'est un homme blanc dans la mi-quarantaine. Il est grand, très beau. Et c'est un Américain. En fait, l'habillement de l'homme est ce que Mike remarque le plus parce qu'il fait très froid. On est dans le temps des fêtes. Ça fait comme 2-3 semaines qu'il fait froid. Là, ça se passe en Angleterre, by the way. Et l'homme est juste habillé, il a comme juste une petite casquette de baseball, il a un petit chandail, tu sais, un sweater, là, un pull pas trop chaud, et il a un coupe-vent par-dessus. Donc il est habillé assez léger pour la température glaciale. Donc l'homme inconnu s'approche de Mike et lui demande si ça fait longtemps qu'il attend. Mike dit « Ah oui, j'ai manqué mon train, et toi? » Je te connais pas, là. Et toi? Là, il dit, ouais, moi aussi. L'homme dit qu'il attend un ami et qu'il vient tout juste d'arriver en ville. L'homme et Mike commencent à parler un peu de tout et de rien, là, tu sais, un small talk. Et l'homme se présente comme étant John. Et là, les deux hommes s'entendent assez bien. Fait que là, John dit, ah, veux-tu venir prendre un café avec moi? Là, Mike, il dit, ah, ce soir, non, là, je dois rentrer chez moi. Fait que l'homme est quand même insistant. Il dit, est-ce que demain, on peut aller prendre un café? Là, Mike, il dit, ben oui, on peut aller prendre un café. Fait qu'ils échangent leur numéro de téléphone et ils se donnent rendez-vous le lendemain. Ce que Mike a trouvé étrange, c'est qu'il avait une impression de déjà-vu avec cet homme-là. Il le connaissait pas, il l'avait jamais rencontré, mais il lui était familier puis il savait pas pourquoi. Mais il dit « Je sais que je l'ai jamais rencontré. T'sais, je suis jamais allée aux États-Unis, je connais pas d'Américain, mais il m'est familier. » Donc le lendemain, John et Mike se rencontrent à la même station de train que la veille. Encore une fois, John porte les mêmes vêtements légers, ben les mêmes vêtements que la veille en fait. Puis il fait super froid dehors, il fait genre moins 15, fait que c'est étrange de le voir aussi peu habillé pour la température. Et ça a pas l'air d'un homme qui a pas les moyens d'acheter des vêtements chauds, là. John avait quelque chose d'assez familier et était très très charmeur, un peu flirty même avec Mike. Les deux hommes se sont arrêtés dans un Starbucks, ils se sont pris un café et ont commencé à parler. John posait beaucoup de questions à Mike, mais quand Mike lui posait des questions, John, tu sais, parlait très peu de lui. En fait, il voulait vraiment connaître Mike. Il semblait surexcité, vraiment, vraiment, vraiment content de lui parler. Il lui posait tellement de questions que Mike avait même pas fini de répondre ses questions que John lui posait d'autres questions. Mais aussi, John connaissait déjà des trucs sur Mike. Par exemple, il savait que Mike avait une sœur. Fait que c'est étrange parce que c'était la première fois qu'ils se rencontraient. Mike a essayé de soutirer des informations sur John parce qu'il parlait très très peu de lui. Il était super mystérieux. Il a juste su que c'était un Américain qui voyageait depuis longtemps et qu'il était dans un band. C'est tout. Et là, c'est là que les choses se sont compliquées. Les deux hommes ont quitté le café et ont décidé d'aller faire une balade en ville. Ils s'amusaient beaucoup, la conversation coulait à flot, ils riaient, ils s'entendaient vraiment bien. J'ai oublié de le dire, mais Mike est homosexuel. C'est quand même important pour la suite, là. À ce moment-là, il n'avait pas encore fait son coming out à ses parents. Mais bon, il pouvait quand même penser que c'était une date, là, ce rendez-vous imprévu-là. Mais John, il était quand même plus vieux parce qu'il est mi-quarantaine, puis Mike était début vingtaine. Fait qu'il avait quand même un bon écart d'âge, mais il s'entendait tellement bien. Tu sais, il y avait une belle chimie entre les deux. À un moment, les deux hommes se sont arrêtés sur un petit pont pour regarder la vue. Et là, John regardait Mike, puis il était vraiment, vraiment comme mélancolique. Il le regardait très nostalgique. Et il lui a dit « Est-ce que je peux te faire un câlin? » Et là, Mike a dit « Oui, oui. » Il trouvait ça étrange. Et là, John l'a serré très, très fort. Ensuite, il l'a regardé avec beaucoup, beaucoup de tristesse et il y avait les larmes aux yeux. Mike lui a demandé « Est-ce que ça va? Tout est beau? » Et John a dit « Tu vas pas le croire si je te le raconte. » Ils se sont assis sur un petit banc. Et là, John a expliqué à Mike calmement qu'il venait d'un futur proche et qu'il se connaissait très bien. John avait voyagé dans le temps pour lui rendre visite une dernière fois. John ne fait pas répondre comment ni pourquoi il l'avait fait, mais il peut juste dire que les voyages dans le temps sont récréatifs et qui ne fonctionne pas comme on le croit. Il a répété qu'il voulait lui rendre visite une dernière fois, mais qu'il était comme beaucoup plus jeune de ce qu'il avait anticipé. Et que Mike était vraiment différent de l'époque où il l'avait connu. En gros, John s'était comme trompé d'époque. Fait que sûrement qu'il reculait trop loin dans le passé. Fait que sûrement qu'il voulait voir Mike quand il était un petit peu plus vieux, fait qu'il l'a vu dans sa trentaine, mais peut-être qu'il voulait le voir dans sa soixantaine, on le sait pas là. John n'arrêtait pas de dire à quel point il était content de voir Mike, mais en même temps, il avait l'air super triste. Hey, j'ai le frisson en racontant cette histoire-là, c'est fou, je sais pas pourquoi elle me touche autant. Mike, il a comme dit, ah oh là, il est en train de rire de moi, il pensait que c'est une grosse joke, fait qu'il s'est levé d'un bond, il a dit qu'il devait partir. C'est là que John l'a pris par la main, puis il a dit, on va se revoir un jour. Ah, ça me donne le frisson, ouais. Et là, leurs chemins se sont séparés. Donc ça fait 6 ans que Mike est dans une relation stable et il a comme l'impression que John aurait pu être un futur partenaire, peut-être son futur mari. Ben là, il est bien dans sa relation, mais il dit c'est ça, un futur partenaire. Mais les gens dans les commentaires, ils ont dit « Ben tu penses pas que ça aurait pu être genre ton enfant, genre ton fils, si t'as un fils plus tard, ton petit-fils, un neveu, bon... » Quelqu'un dans ta famille. Puis John, il dit non. C'était comme vraiment flirty. John, il flirtait beaucoup avec Mike. Il était très tactile. C'était vraiment romantique. Puis Mike dit aussi, c'est sûr que j'avais 20 ans, je me connaissais pas vraiment sexuellement puis tout. Mais il dit, moi, je l'ai senti comme ça. Puis il dit, il me ressemblait vraiment pas physiquement non plus, là. Ça aurait pas pu être quelqu'un de ma famille, mais en même temps, quelqu'un dit « Ok, oui, mais en même temps, c'est un partenaire homosexuel, vous décidez d'adopter, peut-être qu'il va pas te ressembler, ton fils. » Mais Mike, il dit « Ouais, t'as raison, mais j'ai senti que c'était comme peut-être quelqu'un avec qui je vais avoir une relation amoureuse un jour. » Et même quand ils se sont vus, John, il parlait carrément que c'était une date. Il disait pas que c'était un rendez-vous, il disait que c'était une date. Ensuite aussi, c'est venu dans les commentaires que John, c'était probablement pas son nom, parce que c'est un nom super commun, fait que peut-être que la personne pouvait pas dire son vrai nom. Et puis en tout cas, il y en a plusieurs qui ont mentionné John Titor, justement, l'homme qui avait dit qu'il voyageait dans le qui venait du futur. Mais John Titor, je pense qu'on a prouvé que c'est un canular, mais peut-être aussi que John, c'est juste un nom qu'on emprunte tout le temps. Tant qu'il y a des gens du futur qui arrivent à venir ici, peut-être que pour utiliser la technologie, pour voyager dans le temps, peut-être qu'on leur dit « Ok, ton nom va être John ». Peut-être qu'on les oblige à utiliser le nom de John parce que c'est super commun, Puis comme ça, on va pas les identifier. Je sais pas, j'ai comme eu cette théorie-là. Mais si tout ça est vrai, là, moi, je sais pas pourquoi ça m'a tellement rendu... Je l'aime beaucoup, cette histoire-là, puis j'ai comme l'impression que c'est vrai. Mais moi, je veux tout le temps croire à ces affaires-là, là. Mais mettons que c'est vrai, là, t'sais. T'sais, là, Mike écrit ça il y a 30 ans. Puis il écrit ça il y a 4 mois, là. Fait que puis ça s'est passé en 2011. Fait que ça veut dire qu'on va connaître bientôt les voyages dans le temps, pensez-vous? Moi, je pense pas. On m'a toujours dit que les voyages dans le temps, que ça se pouvait pas. Genre, c'est ça, ils m'expliquent tout le temps que dans le passé que ça se peut, puis pas dans le futur, ou le contraire. En tout cas, je m'en rappelle plus, mais genre, c'est pas si facile. Fait que je sais pas si on va connaître, nous, notre génération, les voyages dans le temps, mais admettons ça, si c'est vrai, là, tu sais, si le gars, il est pas complètement cinglé, ou c'est pas juste une story pour être populaire, ça veut dire qu'on va peut-être bientôt connaître les voyages dans le temps, tu sais. Puis sûrement que Mike... Peut-être qu'à 70 ans, il est décédé, puis son partenaire, il voulait juste revenir dans le temps pour le voir une dernière fois, genre dans la cinquantaine, peut-être quand ils se sont rencontrés, et quand c'était peut-être l'année qu'il était le plus heureux, mais il s'est trompé, puis il est revenu à l'âge de 30 ans, il a mal fait ses calculs, puis là, il levait à 30 ans, puis il était là, merde, c'était pas partout l'âge que je voulais. Non, il est revenu, il avait 20 ans, c'est ça, 20 ans, fait que c'était pas du tout l'âge qu'il voulait le rencontrer à 20 ans, là, c'est pas le même homme, là. Fait que je vous ai gardé le meilleur pour la fin, parce qu'avouez que c'est vraiment la meilleure histoire, parce que c'est très, très, très touchant. Ah, je sais pas, tu sais, si t'as un proche dans ta famille, quelqu'un qui est décédé dans ta famille, que tu dis, ah, j'aimerais ça le revoir une dernière fois, puis là, tu fais tes calculs, tu veux revoir toi quand tu l'as connu, mais tu te trompes, puis tu... Tu sais, mettons ton grand-père, ton grand-père, tu veux le revoir. Fait que tu veux le revoir, évidemment, en tant que grand-papa, quand tu l'as connu, mais tu te trompes dans tes calculs, puis tu le vois quand il a genre 15 ans, c'est déboussolant, mais t'es content de le voir, mais en même temps, t'es triste parce que tu sais que c'est la dernière fois, mais tu sais, tu t'es trompé, mais t'es quand même... En tout cas, bref, ça, c'est vraiment une histoire troublante. Puis tous ces glitches-là dans la Matrix nous remettre en question, là, moi j'adore ça. Fait que si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ces vidéos, si vous aimez pas ça, vous êtes obligé de me le laisser savoir, là, ça me fait de la peine. Genre, si vous aimez pas ça, ben la semaine prochaine, vous allez peut-être plus aimer la vidéo. Ok, fait que... Ah, puis mon t-shirt, je sais que vous allez me le demander, ça vient d'une boutique québécoise, c'est Céline Dion, incognito, bien dans ma peau. Je vais mettre les infos dans la barre de description. Fait que voilà! Gardez l'œil ouvert, peut-être que vos futurs ou quelqu'un va venir vous visiter. On sait jamais. Over and out. Feel the gravity. The forces pull between you and me. Yes, it's true, I'm falling higher for you. But I won't rush this love. I can wait even if it's hard.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.